Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI. Il est tout juste midi temps universel, 13h, ici à Paris. Bonjour.
RFI midi.
Charlotte Idrac.
Le tour du monde à la mi-journée. Bienvenue. N'ayez pas peur. Appel de l'opposition en Turquie où le bras de fer se durcit après l'arrestation du maire d'Istanbul, ce qui a déclenché une vague de manifestations. Ekrem İmamoğlu est de nouveau entendu aujourd'hui pour des accusations de soutien à une organisation terroriste. La reprise du cycle infernal à la frontière entre Israël et le Liban, tir de roquettes d'un côté, riposte de l'État hébreu de l'autre. Le premier ministre libanais met en garde contre le risque d'une nouvelle guerre. Des défilés et rassemblements contre le racisme un peu partout en France ce samedi. Mobilisation un peu plombée cette année par une polémique autour du parti La France Insoumise.
RFI.
À suivre aussi, Mehdi Nemmouche, condamné à la perpétuité hier à Paris, reconnu coupable d'avoir été le geôlier d'occidentaux et de victimes syriennes anonymes. Il n'a exprimé aucun regret, aucun aveu, aucune excuse. L'ancien otage et parti civil Nicolas Hénin sera notre invité. Et puis le dernier combat de Big George, l'ancien boxeur américain George Foreman, décédé à 76 ans, mis KO par Mohamed Ali lors du fameux combat du siècle à Kinshasa et reconverti en roi du barbecue. Le journal des sports, c'est dans 10 minutes.
RFI, le monde à midi.
Une marée humaine, manifestation monstre hier soir à Istanbul en Turquie. Après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, mercredi, un coup d'état judiciaire selon ses soutiens. La contestation se poursuit, elle s'étend aussi aux principales villes du pays. Les autorités, elles, restent inflexibles. Le ministère de l'Intérieur fait état ce matin de 343 arrestations. Bonjour Anand Lauer.
Bonjour.
Vous êtes à Istanbul, vous êtes en direct. Alors, le maire Ekrem İmamoğlu est de nouveau entendu par la police là, en ce moment même, pour des accusations, c'est ça, de soutien à une organisation terroriste.
C'est ça, le maire fait l'objet de deux enquêtes séparées. Hier, les policiers l'ont entendu dans le cadre de la première, c'était pour corruption, et depuis ce matin, il est en effet entendu au commissariat central d'Istanbul pour des accusations d'aide au terrorisme, d'aide au parti des travailleurs du Kurdistan. Cette seconde accusation est particulièrement importante parce que c'est elle que les autorités pourraient utiliser pour prendre le contrôle de la mairie d'Istanbul et nommer à la place du maire le préfet ou un autre administrateur. Alors après cette seconde audition aujourd'hui, Ekrem İmamoğlu doit être emmené au tribunal pour être interrogé par un procureur, puis présenté à un juge, tout ça ce soir, dans la soirée. Le dispositif policier aux abords du palais de justice a d'ailleurs été considérablement renforcé ce matin avec des barrières, des canons à eau et des quarts de la police anti-émeute tout autour du bâtiment.
Un dispositif alors que justement on s'attend à de nouvelles manifestations, mobilisations après la rupture du jeûne du Ramadan ce soir.
Oui, une mobilisation qui promet d'être encore plus forte, non seulement parce que nous sommes le week-end, mais surtout donc parce que c'est cette nuit ou demain au plus tard qu'Ekrem İmamoğlu doit être fixé sur son sort. Or, malgré cette mobilisation qui prend de l'ampleur, seuls les médias indépendants ou d'opposition ici couvrent les manifestations. D'ailleurs, le dirigeant du CHP, Özgür Özel, le parti d'Ekrem İmamoğlu, a fustigé ce matin les médias pro-gouvernement, c'est-à-dire 90% environ des médias en Turquie qui, depuis le début des protestations, ne diffuse pas une seule image, pas une seule information sur cette contestation. Özgür Özel menace d'appeler au boycott des grandes entreprises qui détiennent ces médias.
Anne Lauer en direct d'Istanbul, on suivra bien sûr avec vous la suite des événements. Le président turc, le président Erdogan, lui a prévenu, pas question, a dit le chef de l'État, de céder à la terreur de la rue. Au Liban, la force de l'ONU, la FINUL, préoccupée par une possible escalade après des tirs de roquettes tirés donc depuis le Liban ce matin sur le nord d'Israël. L'État hébreu a répliqué avec des frappes aériennes. Selon les médias officiels, au moins une femme a été tuée. Paul Khalife, on vous retrouve à Beyrouth où le Premier ministre libanais a mis en garde contre le risque d'une nouvelle guerre alors qu'un cessez-le-feu très très fragile, on le comprend, entre Israël et le Hezbollah est en vigueur depuis fin novembre.
Oui, Charlotte, cette première violation du cessez-le-feu a provoqué une profonde inquiétude et suscité une vague de condamnation de la part des hauts dirigeants. Le Hezbollah, qui est pointé du doigt par une partie de la classe politique, n'a pas revendiqué les tirs de roquettes et a gardé le silence. Malgré les violations quotidiennes de la trêve par les Israéliens, les autorités libanaises refusent tout retour à l'option militaire et ont choisi la diplomatie comme unique voie pour régler les problèmes avec Israël. Le président libanais Joseph Hahn l'a encore rappelé ce samedi en dénonçant les tentatives de faire retomber le Liban dans la spirale de la violence. Le chef de l'État a déclaré que les événements qui se sont produits au sud du pays constituent une attaque contre le Liban et un coup porté à son projet de sauvetage sur lequel les Libanais se sont mis d'accord à l'unanimité. Même ton du côté du Premier ministre, Nawaf Salam a demandé au ministre de la Défense de prendre toutes les mesures nécessaires, mesures militaires et sécuritaires pour garantir que seul l'État a le pouvoir de décider de la guerre et de la paix. Le chef du gouvernement s'est inquiété du fait qu'une reprise des opérations militaires à la frontière sud risque d'entraîner le pays dans une nouvelle guerre désastreuse.
Paul Ralifé en direct de Beyrouth. J'ajoute que l'armée israélienne, elle, dit avoir frappé des dizaines, je cite, de lanceurs de roquettes dans le sud du Liban. Les préparatifs des pourparlers sur le conflit en Ukraine, lundi en Arabie Saoudite, sous l'égide de Washington. L'un des négociateurs russes dit y aller avec un état d'esprit combatif. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui, indique avoir rendu visite à ses troupes près de la ligne de front dans l'est, près de la ville clé de Pokrovsk. Aux États-Unis, ils ont quelques semaines pour faire leurs bagages et quitter le pays. L'administration Trump a mis fin, par ordonnance, au statut légal de plus de 500 000 migrants latino-américains, des Cubains, des Haïtiens, des Vénézuéliens, arrivés dans le pays dans le cadre d'un programme lancé par l'ancien président Biden, ce qui annonce un nouveau bras de fer avec les juges. Et dans ce contexte, Elon Musk, lui, crée de nouveau la polémique. Le milliardaire, allié du président, offre 100 dollars à ceux et celles qui signeront une pétition contre, je cite, les juges militants. Et cela à l'approche d'une élection décisive pour la Cour suprême du Wisconsin qui doit avoir lieu le 1er avril. Cela rappelle, hein, Marine de la Moissonnière, cela rappelle sa loterie électorale controversée durant la campagne présidentielle.
100 dollars pour tout électeur du Wisconsin qui signe la pétition, 100 de plus pour chaque personne qui l'incitera à faire de même. Une fois de plus, Elon Musk met la main à la poche pour peser sur le cours d'une élection. Cette pétition lancée par son organisation politique America PAC s'en prend aux juges qui, peut-on lire, réécrivent les lois en fonction de leurs opinions personnelles ou politique. Le 1er avril, les habitants du Wisconsin sont appelés à élire un juge de la Cour suprême de leur État, cour qui pourrait pencher du côté conservateur, ce qu'espère bien l'homme le plus riche de la planète. Les démocrates, eux, l'accusent d'acheter des voix, alors que son entreprise Tesla vient de porter plainte contre l'État du Wisconsin qui s'oppose à des ouvertures de concessions. Déjà lors de la campagne présidentielle, Elon Musk avait lancé une loterie consistant à offrir 1 million de dollars chaque jour à un électeur inscrit dans l'un des 7 États décisifs pour la victoire et qui avait signé une pétition conservatrice. Un procédé illégal lui avait alors rappelé le ministère de la Justice.
Le retour à la normale en cours à l'aéroport londonien Heathrow ce matin, de nouveau pleinement opérationnel selon un porte-parole après sa fermeture hier à cause d'une panne de courant, ce qui a entraîné des perturbations en chaîne. Au moins 200 000 passagers ont été touchés. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, constat du président de SOS Racisme en ce jour de mobilisation en France contre les discriminations raciales à Paris, à Marseille, à Rennes ou encore Toulouse. Des rassemblements sont prévus ou ont débuté d'ailleurs un petit peu partout dans le pays. Mobilisation entachée cette année par la polémique autour d'une affiche de LFI, le parti de la France Insoumise. L'animateur de télévision Cyril Hanouna y était représenté avec des traits caractéristiques des caricatures antisémites des années 30. L'affiche a été rapidement retirée, mais cela a créé un malaise à gauche, Stéphane Duguay.
Dans les mêmes marches, mais chacun de son côté. Déjà brouillé sur bien des sujets, les membres du nouveau Front Populaire se sont encore divisés sur l'affiche jugée antisémite, publiée par LFI.
C'est une erreur inacceptable de la France insoumise que nous condamnons.
Le député socialiste Arthur Delaporte regrette ce nouveau dérapage de ses collègues insoumis.
C'est clair que ça brouille le message. Ils ont mal agi parce qu'ils contribuent à alimenter en fait les accusations sur une complaisance vis-à-vis de l'antisémitisme qui sont inacceptables.
Cette polémique éclabousse la gauche, juge le député écologiste Pouria Amirshahi, mais pour lui, ça ne doit pas détourner le message de la manifestation contre l'extrême droite.
Il n'est pas croire une seconde que ça diminue l'importance et la nécessité d'organiser une marche antiraciste et antifasciste. Je pense qu'il y a des milliers de militants ou d'électeurs insoumis qui seront à la manifestation et c'est très bien.
Mais ils seront tenus à distance par les communistes en colère de cette campagne de communication, même si le député LFI Thomas Porte tente d'arrondir les angles.
Nous avons retiré cette affiche. Si elle a pu blesser, toucher des gens, moi je le regrette et je le représente mes excuses, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on voit bien qu'il y a une instrumentalisation aujourd'hui. Ça fait 10 jours qu'elle a été retirée, cette affiche, et on continue à en parler.
Selon lui, aucun doute. Malgré la polémique, les insoumis seront bien accueillis dans les cortèges partout en France. Réponse ce samedi.
Et au total, 50 à 60 000 manifestants sont attendus dans tout le pays. Les sports tout de suite avec vous. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous.
On l'a appris cette nuit, la disparition d'une légende de la boxe, véritable mythe du sport. George Foreman est mort à l'âge de 76 ans.
L'ancien champion du monde est décédé à Houston, au Texas, d'où l'Américain était originaire. 80 combats professionnels, 76 victoires, dont 68 par KO. Et parmi ces quelques défaites, l'une est entrée dans l'histoire.
George Foreman!
C'était lors de ce combat face à Mohamed Ali en 1974 à Kinshasa, le mythique Rumble in the Jungle. Ce matin, le monde de la boxe est en deuil. Tout le monde, y compris les jeunes générations, connaît le nom de George Foreman. Écoutez la réaction de la boxeuse malienne Marine Camara après ce décès.
Je l'ai connu justement par ce fameux combat Mohamed Ali contre George Foreman. Un ami de la salle de boxe qui m'avait offert l'affiche officielle de Rumble in the Jungle. Après, j'avais commencé à regarder des vidéos, plusieurs documentaires sur Ali qui retraçaient l'historique de ce combat-là. J'avais trouvé ça impressionnant et du coup, j'avais toujours eu cette image en fait de George Foreman comme le méchant. Le documentaire décrivait un peu comment Ali avait réussi à contrer tous les pronostics qui disaient qu'il allait se faire mettre KO par la star de l'époque Foreman. Après ça, Foreman, ce qu'il avait remis au bout du jour, c'était de voir qu'il était revenu après 10 ans d'inactivité. Ça montrait quand même un certain symbole de résilience. C'est quelqu'un qui était très respecté dans le milieu de la boxe, qui, malgré son envergure impressionnante, semblait avoir une image très positive, très gentille, etc. C'est ce que je peux dire par rapport à ce parcours-là.
Marine Camara, jointe par Martin Guez.
Oui, parmi les réactions, celle d'une autre légende, Mike Tyson.
Oui, condoléances à la famille de George Foreman. Sa contribution à la boxe et au-delà ne sera jamais oubliée. C'est ce qu'a posté l'ancien champion du monde sur les réseaux sociaux. Il était un artiste du chaos sur le ring. C'était un plaisir de le connaître non seulement en tant que boxeur, mais aussi en tant qu'homme, a pour sa part déclaré Magic Johnson, légende du basket et de la NBA.
Allez, on passe au foot. Les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde se poursuivent.
Et notamment dans la zone Amérique du Sud, Charlotte, cette nuit, l'Argentine est allée s'imposer en Uruguay 1-0. Le Lyonnais Thiago Almada a inscrit le seul but du match d'une jolie frappe lointaine. L'Albicéleste se détache en tête du classement avec 6 points d'avance sur l'Équateur. Aujourd'hui, les qualifications se poursuivent dans la zone Afrique. 2 matchs au programme, Togo-Mauritanie à 16h temps universel et Soudan-Sénégal à 19h temps universel. Plus de détails dans environ une demi-heure dans Afrique Midi.
Rendez-vous est pris, à tout à l'heure, Victor Missistrano. Pour l'heure 13h13, ici à Paris, Mehdine Emouche, condamné à la perpétuité hier soir par la Cour d'assises spéciale de Paris. Le djihadiste de 39 ans, reconnu coupable d'avoir été le geôlier d'otages occidentaux, dont 4 journalistes français en 2013 et 2014, et de victimes syriennes anonymes. Vous avez été l'un des otages, Nicolas Hénin, bonjour.
Bonjour.
Ancien journaliste, vous avez vécu près d'un an de supplice dans les geôles de l'EI en Syrie. Merci d'être avec nous. Première question toute simple. Qu'est-ce que vous pensez de ce verdict d'hier soir? Est-ce que vous êtes satisfait?
C'est un verdict qui me satisfait globalement, pas tant concernant Mehdine Emouche qui était le dernier de mes soucis, mais concernant principalement Qaïs Al-Abdallah.
Ancien cadre de l'EI.
ancien cadre syrien de l'EI que j'avais croisé à Raqqa avant mon enlèvement avec Pierre Torres. On n'était que deux des parties civiles concernées par cet accusé. Et Pierre et moi, nous avons vraiment la conviction qu'il n'était pas seulement co-responsable de mon enlèvement, mais qu'il était venu en Europe en 2015 pour véritablement créer une cellule dormante en vue de préparer des attentats en Europe. Et j'ai eu une vraie satisfaction avec la peine de 20 ans de détention criminelle à laquelle il a été condamné, d'avoir contribué à l'empêcher de nuire. C'est vraiment ma principale satisfaction, en fait.
Vous dites que Medine Mouche n'était pas votre priorité, entre guillemets. Tout de même, on l'a entendu beaucoup pendant ce procès. Il est resté inflexible, il a assumé sa posture de terroriste. Hein. Il a dit « Je ne m'excuserai jamais ». Comment est-ce que vous, Nicolas Hénin, vous avez vécu ses propos, son attitude, ses longues diatribes anti-occidentales? Est-ce que son positionnement vous a choqué, vous a surpris?
Alors, son positionnement m'a pas du tout surpris parce que il était tel qu'à l'époque. Hein, il n'a pas beaucoup changé dans ses obsessions, sa façon sa représentation complètement binaire du monde et sa haine de tout en fait, hein, et son sadisme, son narcissisme, ses provocations. Moi, ce qui m'a plus gêné, c'est la façon dont il a réussi à transformer son procès en tribune politique, mm-hmm, avec des moments au final extrêmement toxiques. Il a eu une logorée qui justifiait l'appel à la violence, qui appelait à commettre d'autres attentats, tout ça sous le sourire parfaitement narquois de son avocat. Et ça, pour la personne engagée dans la prévention de la radicalisation violente que je suis devenue depuis cette épreuve, ça me donne du pain sur la planche parce qu'il va falloir se mettre maintenant au boulot pour démonter tous ces propos.
Medine Mouche, qui avait déjà été condamné, on le rappelle, à la perpétuité pour l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014, ça expliquerait selon vous qu'il ait voulu faire de ce procès une tribune? Il n'avait pas grand chose à perdre, hein, entre guillemets.
Il avait tout à gagner, et en fait j'ai même le sentiment que Bruxelles, c'était pas son procès. À Bruxelles, il s'est fait condamner pour l'assassinat de quatre personnes au musée juif et en 2014, mais il n'avait absolument rien dit. Il se réservait pour ce procès. Il cherchait une tribune en France. Lui, ce qu'il cherchait, c'était à devenir une petite star du mal en France, et par conséquent, c'était ce procès d'assises qu'il attendait, et c'était sur cette scène-là qu'il souhaitait se produire.
Est-ce que vous craignez des suites? Est-ce qu'il y a un risque qu'il poursuive son combat en prison? On a entendu Didier François, également ex-otage, également partie civile, qui estime que son objectif réel de Medine Mouche était de continuer à recruter, d'inspirer en quelque sorte.
Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs phases dans le djihad. Alors, Medine Mouche est un djihadiste qui n'est pas du tout classique. Par exemple, il a très peu de références religieuses. Ses références, quand on a écouté sa logorée, c'était beaucoup plus. Il avait l'air beaucoup plus biberonné à la propagande du Kremlin qu'à celle de Daesh.
Et très anti-américaine aussi.
Qui n'est pas classique. Mm. Néanmoins, ça reste un djihadiste. En l'occurrence, il a fait le djihad en Syrie, il a fait un acte d'inspiration djihadiste à Bruxelles, il a eu un comportement djihadiste à la barre, et en l'occurrence, se comporter comme un djihadiste à la barre, excusez mon français, mais ça consiste à foutre de la gueule de la cour, et après, il compte bien, je l'imagine, poursuivre son djihad en prison, devenir une sorte d'influenceur pénitentiaire, ce qui d'ailleurs vient défier violer toutes nos règles de droit commun, puisque normalement, dans une démocratie libérale, eh bien, on a tendance à considérer que l'isolement est ne peut être qu'une mesure exceptionnelle et qui ne peut pas s'appliquer dans le temps long. Le problème, c'est que face à un détenu d'une telle dangerosité que lui, malheureusement, je vois guère d'autres solutions que l'isolement, sachant que par ailleurs, les trois détenus qui étaient dans le box durant ces 5 semaines de procès ont tous été surpris lors de fouilles avec des téléphones dans leur cellule, des téléphones portables, alors même qu'ils étaient placés à l'isolement. Mmh. Donc c'est un petit peu illusoire d'imaginer que parce que la justice a prononcé une peine d'incarcération, cela permet de totalement neutraliser un terroriste. Non, il reste actif, il reste influent.
Ce procès, on l'a dit, Nicolas Hénin, a été élargi, étendu à tous les otages occidentaux séquestrés en 2013-2014 en Syrie, dont ceux qui ne sont pas revenus. Élargi aussi aux victimes syriennes, des milliers d'inconnus torturés dans les mêmes geôles. C'était important pour vous que la Cour élargisse ce procès, de leur donner une voix en quelque sorte?
Oh là oui, c'était essentiel, parce que ce sont toujours les oubliés de l'histoire. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la couverture médiatique que ce procès a eu en France. On avait à peu près l'impression qu'il n'y avait qu'un seul accusé, celui qui a fait la une des journaux, face à 4 victimes seulement, les 4 journalistes français. Mmh. Non, c'était beaucoup plus important que ça. Et on a fait rentrer aussi des réfugiés de Raqqa dans la salle d'audience, qui sont venus écouter les audiences, parce que en fait ce procès est un petit peu un moment charnière. Il vient fermer en quelque sorte une séquence de procès concernant les attentats qu'on a eu en France, mais il vient ouvrir d'autres procès qui vont concerner beaucoup plus les crimes de guerre commis en Syrie et qui ont vocation à se tenir dans les prochaines années.
Et pour vous,
que ce soit en France ou ailleurs dans le monde.
Pour vous, à titre personnel, est-ce que ça va permettre de tourner une page? C'est un espoir que vous évoquiez dans une tribune publiée avant le début du procès. Et là, il y a quelques minutes, vous nous parliez d'un nouveau combat.
Oui, exactement. Vous savez, en fait, je pense que j'ai juste terminé un chapitre, mais que je vais très vite me faire rattraper par le chapitre suivant.
Quel sera-t-il?
Continuer le combat. Continuer de lutter à la fois contre ce groupe terroriste, continuer de témoigner contre lui, continuer de l'empêcher de recruter, de l'empêcher de convaincre des personnes, y compris de mon propre pays, qui pourraient être tentées par cette idéologie ou ces personnes. Rappeler que, en fait, la posture de Mehdi Nemmouche, elle n'a aucun mérite. Hein, parce qu'il n'y a aucun mérite à faire de la surenchère dans le mal. C'est très facile, il suffit juste d'accumuler les provocations, d'accumuler les actes haineux. C'est pas parce que vous faites de la surenchère dans le mal que vous devenez un héros du mal. Ça fait juste de vous un criminel.
Et le combat donc continue pour vous, Nicolas Hénin. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous à l'issue de ce procès, ancien otage et ancien journaliste. Très bonne journée à vous, à bientôt.
RFI Midi, Le Monde à la mi-journée. Charlotte Hydrac.
Ça a le goût d'une célèbre boisson gazeuse. La canette est rouge et aux couleurs du drapeau palestinien. Gaza Cola, c'est un soda militant mis au point au Royaume-Uni alors que le territoire palestinien est de nouveau sous le feu de l'armée israélienne. Cette initiative Gaza Cola vise à financer la reconstruction de l'hôpital Al-Karama, précisément, qui est complètement détruit au nord de l'enclave palestinienne. Reportage à Londres, Emeline Vin.
En plein cœur de Londres, le café Iba offre une bulle de Palestine. Avec ses kéfiers et ses drapeaux au mur, attablé devant une salade arabe, Hamza sirote un soda un peu particulier.
Gaza Cola is always welcome. It's good. It tasted good.
Gaza Cola, ça fait toujours du bien, c'est bon, c'est rafraîchissant. Je crois qu'on a le pouvoir d'agir collectivement en choisissant ce qu'on consomme et ce qu'on refuse de consommer.
À l'origine de Gaza Cola, canette rouge inspirée d'une autre célèbre marque, il y a Osama Kachou, réalisateur originaire de Cisjordanie. Depuis août, il a vendu 1,5 million de canettes, une manière de boycotter les géants du soda.
Coca-Cola is...
Les grandes entreprises bénéficient toujours de la guerre. Celles qui font déjà beaucoup d'argent, Coca-Cola, possède une immense usine dans les territoires palestiniens illégalement occupés. C'est une pratique illégale. et eux, ils font de l'argent. Tant qu'ils n'en perdront pas, ils ne changeront rien. Gaza Cola vient de là, une sorte de David contre Goliath. Nous n'allons pas tout changer, mais nous voulons créer de la réflexion.
La grande marque visée, Admet, présente en Palestine depuis 1998 et assure employer un petit millier de Palestiniens. Il aura fallu 9 mois pour trouver des partenaires. Aujourd'hui, tous les bénéfices sont reversés à Gaza et un projet en particulier, la reconstruction de l'hôpital d'Al-Karama, au nord du territoire, détruit en août dernier.
Cet hôpital en particulier est très important car au moins 300 000 personnes en dépendent. Et c'est un petit établissement, donc c'est réalisable. Autour du site, nous avons installé des tentes où les patients sont soignés. Nous finançons ces tentes. Nous sponsorisons le salaire des soignants qui restent, environ 200 euros par mois. Nous soignons environ 1000 personnes chaque jour.
Ce soir-là, Osama Kachou organisait une conférence avec le docteur Mohamed Tahir, revenu de 2 missions médicales à Gaza. Le chirurgien explique l'importance des initiatives comme Gaza Cola.
Sur le terrain, ce sont des familles détruites, de nombreux patients avec des blessures catastrophiques, handicapantes, et des semaines, voire des années de douleurs à venir. Maintenant qu'on se dirige vers la gestion d'affections chroniques, il faut former, entraîner, reconstruire. Si vous ne pouvez pas venir donner de votre temps, alors donnez de votre argent.
Aucun grand distributeur britannique n'a pour l'instant accepté de commercialiser le soda, qui devrait arriver en France en mars dans certains restaurants. Emeline Van Londres, RFI.
Et parallèlement, à l'instant, le Fatah appelle le Hamas à céder le pouvoir dans la bande de Gaza, et cela, je cite, pour préserver l'existence des Palestiniens. Dans moins de 5 minutes, Afrique Midi sur RFI. Avant ça, la douceur d'une belle rencontre, un dialogue entre le choriste sénégalais Ablaye Sissoko, qu'on salue, et l'accordéoniste français Cyril Brotteau. Ils se retrouvent sur un deuxième album intitulé Gio, rencontre amicale et musicale qui a enchanté le public du festival Babel Music XP à Marseille, où ils se sont produits jeudi soir, et Olivier Roger les a rencontrés.
Ma chérie est fan de la musique d'Ablaye depuis Le Grillo Rouge, depuis très longtemps. J'ai invité Ablaye à venir faire un concert solo dans notre salon. Ablaye a accepté, on ne se connaissait absolument pas.
Voilà. Donc Ablaye, quand on vous dit bonjour, je ne vous connais pas, mais venez chanter dans mon salon, vous acceptez?
Non, pas forcément, non, non.
Sinon...
Non, j'aimerais bien. Mais la plupart, quand même, la plupart, j'accepte. Hein. Moi, je sais, d'où je viens, c'est-à-dire ma tradition, ma culture, en étant un griot aussi. Souvent, quand on appelle un griot, s'il n'est pas occupé, il n'a pas le droit de refuser.
Depuis le début que je joue, moi je joue des musiques de tradition populaire occitane, du sud de la France, et le contexte actuel, c'est le contexte de danse, le contexte de bal. Là, on n'est plus du tout dans le même contexte, on n'est plus du tout dans la même musique, donc il m'a fallu un peu pousser la réflexion pour savoir comment est-ce que j'allais faire. Alors après, on se rend compte qu'on n'entend pas les trucs du tout pareil. Le début, les fins, les structures, les machins, tout ce que tu veux techniquement. Et en fait, au bout d'un moment, on dit, bon, ben, tu sais quoi, on va arrêter d'en parler. Et en fait, on va jouer.
Derrière les instruments, il y a les hommes. Maintenant, quelle est l'histoire que ces hommes-là veulent raconter, en fait, c'est ça. Donc si on a envie vraiment de raconter nos histoires, il n'y a pas de raison que les instruments ne suivent pas.
On s'alimente tous les deux en se faisant des propositions et évidemment on passe un temps à se les approprier, on passe un temps à les jouer, on passe un temps à s'en imprégner.
Et si le feeling est là et cette envie de partager, voilà, c'est une chose très naturelle aussi.
Voilà, le joueur de cora sénégalais Ablaye Sissoko et le français Cyril Brotteau pour leur deuxième album Gio, pourvu que ça dure. Restez avec nous à l'écoute de RFI. Afrique Midi, toute l'actu africaine, c'est dans une minute, juste après. Ceci, à tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
En période de vache maigre budgétaire, les États ont besoin de nos impôts pour financer leurs projets et redistribuer les richesses. Faut-il taxer les contribuables ou alors davantage les entreprises ? Est-ce la grande revanche de la fiscalité ? On en parle avec nos invités à l'occasion du printemps de l'économie à Paris.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure, à 23h10 TU, sur RFI.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile. Des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.